France Musique.
Merci à vous Christophe Bourseiller, nous vous retrouvons dimanche prochain à 17h pour vos aventures politico-musicales. Les menus plaisirs de Bruno Mantovani. Bonjour à vous, chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans mon salon dominical où l'on cause plaisir. Aujourd'hui, je reçois dans mon studio de Radio France un pianiste qui, par son enthousiasme et sa boulimie, incarne mieux que quiconque cette notion de plaisir qui m'est chère. Boulimie de concert, tout d'abord. Comme dans la célèbre chanson, vous êtes un jour à Rotterdam, le lendemain à Rio, vous écumez les salles les plus prestigieuses au rythme d'une star de la pop, et c'est déjà un exploit d'avoir trouvé une date pour vous recevoir dans cette émission. Boulimie de répertoire ensuite. Bien sûr, le garçon qui est en face de moi joue absolument tout ce qui est la nourriture du pianiste en fin de carrière, alors qu'il est encore fort jeune. Beethoven, Mozart, Liszt, Debussy, j'en passe et des meilleurs sont son pain quotidien. Mais en plus, il défend des répertoires moins connus, d'Abel Decaux à Jules Massenet, en passant par la musique contemporaine où il excelle. Boulimie d'enregistrement discographique, enfin. Notre héros du jour multiplie les publications, et alors que certains peinent à publier un récital tous les 2 ans, lui ne jure que par les intégrales. Une petite série des sonnettes de Beethoven par-ci, un coffret Ravel par-là, un marathon de Debussy encore, et nous en avons d'ailleurs écouté de larges extraits dans les émissions précédentes. À ce rythme-là, il aura bientôt tout enregistré, et j'attends même que notre virtuose pousse le bouchon plus loin pour graver des œuvres que les compositeurs n'ont même pas encore eu le temps d'écrire. Mais bon, avant que nous ne puissions écouter vos disques du 8e concerto de Beethoven ou de la 15e sonate de Prokofiev, il vous reste encore à faire, cher ami boulimique. Mais en fait, boulimique n'est pas un terme très approprié.
Ah.
Je n'évoque pas par là votre silhouette élancée qui est loin d'évoquer un bibin d'homme, mais plutôt le soin que vous portez à cultiver l'excellence dans tous les répertoires que vous abordez. Un boulimique peut-être, mais ne se nourrissant que de caviar musicaux, un militant anti-malbouffe auditive pour qui le nombre et la masse ne sont que des sommes d'individualités ayant leur propre perfection. En fait, vous êtes un gourmet et gourmand du piano,
ah,
un raffiné de la note, et donc, plus qu'un boulimique, un véritable athlète aux performances impressionnantes. Un spécialiste polyvalent, ça existe ? Visiblement oui, quand on regarde votre carrière. Si Usain Bolt est surnommé l'éclair, vous êtes, par assonance avec votre prénom, le capitaine flamme de l'instrument qui ne vient pas de notre galaxie mais du fond de la nuit. Célébré partout dans le monde, vous avez remporté plus de récompenses que l'ensemble des généraux soviétiques encore vivants réunis et c'est avec un grand plaisir que je vous reçois en ce dimanche. Bonjour Jean-Ré Flamme Bavouzé.
Bonjour.
Nous allons commencer cette émission autour du plaisir par une œuvre qui vous est chère et par un compositeur qui vous est cher puisqu'il s'agit de Bartok et de la sonate pour 2 pianos et 2 percussions. On sait que dans votre vie personnelle, vous êtes très proche de ce pays merveilleux qu'est la Hongrie, mais qu'en plus, ce répertoire, je rappelle que vous avez enregistré les 3 concertos de Bartok il y a quelques années, vous êtes très, je dirais, familier par l'utilisation du piano qui est celle de Bartok.
Oui, oui, en effet, c'est un répertoire en fait qui m'était bien plus proche quand j'étais au conservatoire, bien plus jeune, que par exemple celui de Debussy. Et la musique de Debussy m'a été énigmatique pendant très très longtemps. Alors que la musique de Bartok m'a été d'une manière assez curieuse, même bien avant que j'aie la chance de rencontrer tous ces musiciens hongrois extraordinaires, très familière. Et cette sonate, elle représente des plaisirs, un plaisir très particulier. Elle représente même pour moi un point de non-retour, je veux dire. Quand Zoltán Kocsis m'a fait le plaisir d'être son partenaire pour une série de concerts en... Ça remonte à 95. Et donc Zoltán Kocsis, un des grands princes du piano et un homme avec une vision de la musique incroyable. Il a, on pourrait dire sans exagérer énormément, qu'il a vraiment 300 ans de musique dans la tête et dans les doigts. Avec une mémoire absolument prodigieuse. Enfin, il était une de mes figures les plus inspirantes que je connaisse. Et donc, d'être avec lui pendant une douzaine de concerts qui s'est allé sur quelques mois, c'était vraiment comme avoir les deux doigts dans la prise de courant, quoi. Je veux dire, c'était soudain comprendre, peut-être même aller jusqu'à comprendre comment l'esprit d'un Mozart, par exemple, pouvait fonctionner. J'ai vu Zoltán Kocsis faire des choses qui me semblaient absolument hors de portée, comme jouer de mémoire une entière symphonie de Brahms à la demande, ou jouer tout le château de Barbe Bleue par cœur, à un entracte d'un de nos concerts, par exemple. Enfin, bref. Et puis cette intensité, c'est ça, cette concentration, de pouvoir vivre ça de tout près, vraiment, et d'en faire même partie, a été pour moi vraiment une expérience, je l'appelle un point de non-retour, c'est-à-dire que ça m'a complètement transformé. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette œuvre, et justement avec Zoltán Kocsis notamment, et des Ranki au piano.
Donc c'est un peu Bartók, beaucoup Kocsis et Ranki, mais aussi leur compère percussionniste Gustav Kscher et Zoltán Rax dans ce final de la sonate pour deux pianos et deux percussions de Béla Bartók. Thank you. Gustav Tser et Zoltán Ratz aux percussions, Zoltán Kocsis et Dezsor Anki au piano, dans ce final de la trépidante sonate pour piano et percussions de Béla Bartók. Quand on écoute cette musique, il y a tellement d'informations, on se demande si on préfère l'harmonie, si on préfère le rythme, si on préfère les timbres. Je crois qu'une des grandes magies de Bartók, c'est d'arriver à créer des idées musicales qui ont vraiment la globalité de tous ces paramètres musicaux.
Oui, puis absolument. Puis une poésie incroyable, cette larme à la fin versée en do majeur et cette petite marche qui s'en va. Quelle idée poétique extraordinaire. Il aurait pu terminer en fanfare. Il aurait pu terminer avec une espèce de paroxysme pour faire lever les salles. Non, ça, il y a quelque chose de tellement touchant dans cette énergie formidable qu'il y a pendant tout le mouvement. Et puis ça se dilue, mais dans une espèce de paix, de résignation. Enfin, je trouve ça absolument merveilleux. Et puis je trouve cet enregistrement splendide. On n'a pas fait mieux.
Je me souviens d'une version télévisée où Murray Peraya travaillait avec Gyor Soltik, oui. Qui jouait du piano lui-même. Il disait que cette partition était injouable.
Oui, pourtant, il était un très bon pianiste, Soltik. Mais en effet, il y a des choses extrêmement difficiles. Ça vaut vraiment la difficulté du deuxième concerto, hein. Ça c'est sûr.
Alors, est-ce que ça vaut la difficulté du premier concerto de Liszt que nous allons écouter maintenant ?
Ah, c'est une autre chose. Mais ça, ce concert, je suis très content qu'on ait pu le retrouver parce que c'était vraiment un très, très grand plaisir. C'était un concert avec l'orchestre du conservatoire et c'était tout un programme hongrois. Il y avait la suite des danses de Bartók, une œuvre absolument extraordinaire. Il y avait des choses de Kodály et puis il y avait ce concerto de Liszt. Et moi, j'ai eu un plaisir absolument fou à jouer avec cet orchestre jeune. Je revenais d'une tournée du Japon. Et puis, là, vraiment, il y avait un enthousiasme. Non pas que les orchestres japonais n'ont pas d'enthousiasme. Enfin, ils ont une autre souci de la perfection. Et là, il y avait une force. Et le chef très jeune, Jean Diroyer, j'en ai un excellent souvenir. Et je sais que ce n'est pas tout à fait dans la tradition de l'émission de faire diffuser des enregistrements de l'invité. J'en suis d'autant plus reconnaissant au producteur. Mais c'était vraiment quelque chose auquel je tenais parce que c'était un très très beau moment et oui, et voilà.
Donc on écoute en ce moment même la fin du premier concerto de Franz Liszt. Thank you. C'était l'orchestre du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, dirigé par Jean de Royer dans ce premier concerto de Liszt, avec comme étoile le pianiste Jean-Éphraim Bavouzé, qui est mon invité aujourd'hui. Puisqu'on parle de plaisir, quel est le plaisir de se réécouter ?
Ah, ça, je ne sais pas si c'est un vrai plaisir. Mais à la fois, bon... C'est comme regarder un peu en arrière. Puis, de toute façon, il y a eu tellement de choses entre. Le concert a été fait en quoi, 2009 ?
En 2009, le 17 novembre 2009.
Oui, donc évidemment, on est très critique. Ça peut faire plaisir. Je me souviens d'une image très belle de Rubinstein, ayant une larme, on lui passe un enregistrement, je crois, de la fantaisie de Schumann, et il verse une larme, mais c'était pas de l'autosatisfaction, il était ému par la musique. On peut être aussi très touché par l'œuvre sans se dire pour sa petite gloriole, non, mais simplement par la beauté de la musique. Mais généralement, je trouve l'expérience plutôt douloureuse que du plaisir. Parce que, je ne sais pas, on est un peu plus critique que si on écoutait quelque chose de interprété par un autre. Je ne sais pas si, en tout cas, pour moi, ça correspond vraiment une notion de plaisir. Même s'il y a, par moments, une certaine fierté, oui.
Vous allez avoir droit à la double peine, Jean-Éphraim Bavouzé, puisqu'on va vous écouter à nouveau. On va laisser la Hongrie de côté, on a déjà été baigné dans Bartok et dans Liszt. Cette fois-ci, vous serez pianiste d'orchestre dans, on va dire peut-être, la première utilisation du piano en tant que, je dirais, que quidam d'une grande formation orchestrale, c'est-à-dire dans Petrouchka de Stravinsky, que vous avez enregistré avec l'orchestre de San Paolo, dirigé par Yann-Pascal Tortelier.
Oui, alors ça c'est en complément d'un disque consacré à l'intégrale de l'œuvre pour piano et orchestre de Stravinsky. Et moi j'ai toujours rêvé de jouer cette partie dans l'orchestre. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que, enfin ce qui est amusant, mais quelque chose que je ne savais pas, je l'ai appris plus tard, le disque une fois enregistré, c'est qu'en fait Stravinsky avait pensé faire un concerto pour piano de cette partition. Donc en fait c'est le complément absolument idéal. Alors là en effet, là c'est le bonheur absolu, c'est-à-dire le bonheur absolu de pouvoir jouer de toutes ses forces sans avoir aucune chance d'être entendu, puisque la masse orchestrale étant ce qu'elle est, il y a 90 musiciens, je pense, dans l'enregistrement. Pascal Tortelier avait demandé que je sois placé juste devant lui. Bon, évidemment, c'est une position très judicieuse, donc ouvert, pour être vraiment avoir d'abord un contact très direct, physique avec donc le chef, ce qui est très important d'une partition aussi compliquée, et puis pour la mise en place. Et puis d'être aussi entouré de tous ces musiciens. Moi, je n'ai jamais entendu l'orchestre dans cette perspective sonore-là. Et puis aussi la difficulté, bien sûr, d'être ensemble. Parce qu'en tant que soliste, on est toujours la force motrice. On est toujours un petit peu devant. On est celui qui pousse un peu, toujours un peu le champignon un peu plus loin pour que ça soit toujours un peu rapide. Généralement, l'orchestre est un peu derrière. Enfin, ça dépend avec qui on joue, mais pas toujours. Mais là, donc, il faut être absolument calé avec cette inertie. Et ça a été un exercice extraordinaire et pour moi, alors là, un plaisir absolu.
Thank you.
plus aguerris d'entre vous auront peut-être entendu un piano, et alors ceux qui ont vraiment une culture pianistique extraordinaire auront même reconnu le son de Jean-Efflin Bavouzé derrière cette masse orchestrale extraordinaire de l'orchestre de San Paolo, dirigé par Yann-Pascal Tortelier, dans cet extrait de Stravinsky et Petrushka. Il s'agissait de la danse des cochers et des palefreniers. Jean et Flamme, c'est une version très russe en fait, très brute, pas très rapide. J'aime beaucoup ce côté terrien.
Oui, oui, c'est Pascal insistait à ça, c'est que ça ne file pas. Et c'est une belle version, je suis très fier d'en faire partie.
C'est un grand plaisir en tout cas que le Stravinsky ne devienne pas un prétexte à la démonstration, ce que malheureusement il est beaucoup trop souvent pour les chefs d'orchestre.
France Musique.
On va changer complètement de registre. Les auditeurs ne savent peut-être pas que vous êtes un pianiste à des multiples vies et que vous avez été percussionniste à une époque, oui. Je crois savoir, à un bon niveau d'ailleurs. Et que, évidemment, le mix, comme on dit maintenant quand on est moderne, entre la percussion, le piano, c'est aussi le jazz et une pratique, je dirais, de ces musiques improvisées, de ces musiques nord-américaines.
Absolument, ouais. Et dans l'extrait qu'on va entendre là, d'un groupe de Yellow Jacket, je dois dire vraiment que ce percussionniste, William Kennedy, c'est un génie de la percussion. Dans le morceau qu'on entend, son accent sur la deuxième double croche, moi, m'a procuré des heures de bonheur. Le morceau fait moins de 6 minutes.
Alors, je donne juste un conseil pour ceux qui nous écouteraient tout en étant en voiture, en rentrant de week-end. J'ai fait la mauvaise expérience d'écouter ce morceau avec vous il y a quelques années pendant que vous conduisiez. J'espère que la maréchaussée ne vous chronométrera pas, parce qu'en général, on a tendance à accélérer quand on écoute la chose. Yellow Jacket Sightseeing.
Thank you.
Une petite sucrerie ensoleillée en ce dimanche pluvieux. Yellow Jacket Sightseeing, qui était un extrait d'album Four Corners. C'est vraiment un grand bonheur que d'entendre ces harmonies qui semblent très simples. Et puis quand on écoute bien, c'est très surprenant en fait.
Ah, puis ils ont trouvé une spontanéité. On a vraiment l'impression que c'est fait devant vous, quoi. C'est merveilleux. Ah, moi, ça me fait planer cette musique. Je suis très heureux qu'on ait pu le partager avec les auditeurs.
Alors, on va continuer à planer, mais alors dans un registre qui n'a strictement rien à voir, puisqu'on va écouter ensemble le deuxième quintet de Gabriel Fauré, en tout cas le deuxième mouvement, dans une version mythique de Vlado Perlmutter et du Quatuor Parrainin. Là aussi, une musique qui vraiment nous porte, qui nous fait voyager. C'est assez étonnant de voir que, depuis que je fais cette émission, à peu près deux tiers des invités amènent la musique de Gabriel Fauré, comme si cette musique était devenue maintenant une forme d'incarnation du plaisir. Je pense qu'à 15 ans, on n'aurait peut-être pas dû du tout ce genre de proposition.
C'est, en effet, c'est intéressant de le faire remarquer. En tout cas, en ce qui me concerne dans ma vie musicale, d'avoir appris ce quintet m'a mis véritablement dans un état de transe. Il y a peu d'œuvres, curieusement le quintet de Franck, quand j'ai appris également le prélude de Tristan, quand j'ai appris le deuxième concerto de Bartok et le cinquième de Prokofiev. Ce sont des œuvres, c'est-à-dire que quand on met ses doigts dedans, on ne peut rien faire d'autre. Je me souviens avoir passé 28 heures au piano en deux jours. C'est-à-dire que j'ai fait 14 heures d'affilée, deux jours de suite, pour tout simplement, je ne pouvais rien faire d'autre que d'être absolument drogué par ces harmonies et la subtilité de cette musique qui est vraiment comme une espèce d'une chose qu'on ne peut pas laisser. Il faut se l'approprier. Thank you.
Ado Perlmutter et le quatuor Parrainin dans ce deuxième mouvement du deuxième quintet pour piano et cordes de Gabriel Fauré. Je me souviens, Jean et Flamme, qu'un jour nous étions dans un festival ensemble et je vous avais dit « Oh, j'aimerais beaucoup que vous enregistriez une intégrale des sonates de Haydn » et vous êtes en train de la faire. Alors je demande solennellement, devant les millions d'auditeurs qui nous écoutent, faites-nous une intégrale des Nocturnes de Fauré un jour, je vous en supplie.
On verra. Merci en tout cas.
Il y a quelque chose dans ce quintet de Fauré qui est presque, on disait hors antenne, presque Debussy, c'était même plus abstrait que Debussy de temps en temps, comme si le geste instrumental, perdait de sa digitalité, devenait quelque chose de très, en musique contemporaine, une écriture justement gestuelle. Et je trouve ça très très fort dans cette œuvre.
Oui, je pensais à Debussy, je pensais à l'étude pour les degrés chromatiques, par exemple, où il y a dans ce mouvement-là plein de chromatismes. Mais c'est presque un chromatisme encore plus spectaculaire, je trouve, encore plus démonstratif que celui de Debussy. Et je ne l'avais pas entendu depuis assez longtemps, je dois dire, ce quintet, mais c'est fou, toute la subtilité de cette musique et puis ces harmonies, comme on disait, je veux dire, qui sont les plus belles harmonies du monde, qui sont là devant vous, mais comme s'il y en avait encore une réserve sans fin, c'est prodigieux.
Alors on va finir cette émission en écoutant Debussy, vrai cette fois-ci, dans une œuvre mythique qui est Jeu, qui est une œuvre tellement complexe et aussi tellement gestuelle.
Parlons d'harmonie, là, pour le coup.
Avec des harmonies qui découlent comme si on ouvrait le robinet, mais alors là, ce n'est pas le robinet d'eau tiède, c'est le robinet d'opulence.
D'or.
Et que vous avez enregistré au piano seul, dont vous avez fait une transcription donc, de
voilà,
jeu.
Voilà, j'ai fait une transcription pour deux pianos de cette œuvre, que Pierre Boulez a eu la gentillesse de préfacer. Et donc Pierre Boulez, dans les quelques mots qu'il a écrits, fait le rapprochement entre quand on écoute cette œuvre au piano, dans une version donc en blanc et noir, sans la couleur orchestrale, on entend tout le rapprochement avec les études, avec certains préludes, et avec bien sûr en blanc et noir la pièce qu'il a écrite à peu près à la même époque. Et puis il ne faut pas oublier que c'est une œuvre éminemment, dans une émission qui est consacrée au plaisir, l'argument éminemment érotique, puisqu'il s'agit d'un flirt à trois avec un jeune homme et deux jeunes filles qu'on imagine très belles.
Je pensais juste qu'il s'agissait d'une partie de tennis, mais on ne m'avait pas expliqué le sous-titre.
Ah mais jeu, ça peut être pris à plusieurs sens.
Bon, ce sont des oreilles trop chastes auxquelles vous parlez, cher Jean et Flamme. Pierre Boulez et l'orchestre de Cleveland dans Jeu de Claude Debussy.
Thank you.
Pierre Boulez dirigeait l'orchestre de Cleveland dans Jeux de Claude Debussy. Merci beaucoup Jean Eflamme d'avoir été mon invité aujourd'hui dans ces menus plaisirs. J'étais très très heureux de partager ce moment avec vous.
Moi aussi, c'était le mien, c'est le mien.
Merci d'avoir écouté cet épisode des Menus Plaisirs. Merci à toute mon équipe. L'attaché de production était Annie Comier. L'ingénieur du son était Éric Boissé. Et le réalisateur, Sylvain Richard. Dans quelques minutes après les communiqués, vous pourrez poursuivre votre soirée sur France Musique en compagnie du journal de 19h, puis avec Édouard Fauré-Colfuti et ses carnets de voyage. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain, toujours à 18h sur France Musique, pour un nouveau numéro de mes menus plaisirs. Au revoir.